Prédicateur, pasteur, Alain Ouvrard, thème du message, le pays des ombres et de l'obscurité.
Deux textes cet après-midi, et j'aimerais que nous engagions une réflexion sur quelque chose que nous connaissons, hélas. Ça va nous permettre peut-être de bien localiser, ou comment dire, de bien situer les choses, parce que ce dont je vous ai parlé est environné d'une grande confusion. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. On ne sait pas si c'est la vérité ou le mensonge, et vous allez découvrir ça avec moi tout de suite. On va prendre un premier texte. Dans l'évangile de Matthieu. Alors on commence par l'évangile de Matthieu, si vous voulez bien. Évangile de Matthieu, au chapitre 13. Et là, on va essayez de comprendre ce dont je vous ai déjà annoncé en quelques mots. Voilà, Matthieu 13, verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema, de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » On va rester sur cette parole. « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et puis une deuxième lecture qui viendra compléter celle-ci. Dans le livre de Job, et là nous allons entrer dans le vif de notre pensée, de notre réflexion, livre de Job, chapitre 10, verset 21. Alors écoutez bien, ou lisez bien avec moi. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Voilà, tout ça c'est un peu mystérieux. C'est vrai. C'est quelque part une parole assez étrange. Mais j'aimerais que nous puissions réellement réfléchir sur ce pays de l'obscurité. Vous allez me dire, l'Évangile, c'est vraiment prêcher le royaume de la lumière. Mais je pense qu'il faut permettre aussi à tous ceux qui sont captifs et prisonniers de ce pays de l'obscurité, l'ombre de la mort et qui sont dans la confusion, de pouvoir se situer eux-mêmes et leur montrer qu'ils ne sont pas dans la lumière, mais qu'ils sont dans le pays de l'obscurité. Quand on ne sait pas, on ne sait pas, évidemment, puisque la grande stratégie de ce maître du pays de l'obscurité, c'est précisément de répandre des fausses informations et de faire croire aux gens qu'ils sont alors qu'ils ne sont pas. Alors nous allons voir ça ensemble et nous allons donc méditer cela. Vous allez tout de suite comprendre par les premiers mots de quoi il s'agit de ce pays d'obscurité. Alors, on va voir ça tout simplement. Par l'occultisme, les hommes sont mis en contact avec des puissances reconnues dangereuses par l'Écriture sainte. Voilà ce que nous dit la Bible. Toute pratique occulte est donc tenu pour un égarement souvent accompagnés de troubles spirituels, psychiques et physiques. On le voit dans le cas où Jésus délivre des possédés, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Alors, la Bible nous dit qu'il est urgent que les hommes ouvrent les yeux sur les ruses de ce maître du pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort, parce que nous savons que ce maître qui n'est autre que le diable, eh bien, est habile à se déguiser en ange de lumière. Ça, c'est Paul qui nous le dit. Et qu'il soit mis en garde, et que les hommes soient mis en garde contre ce redoutable adversaire. Ce matin, on a ouvert un livre qui s'appelle le livre de la Genèse, chapitre 3, et on a vu un petit peu comment les choses avaient été orchestrées de haute main. Alors, cette mise en garde, on va en parler. Premièrement, c'est un ordre formel de Dieu contre toute pratique occulte. Et Moïse reçoit l'ordre de Dieu pour donner à Israël de ne pas imiter les abominations énumérées dans Deutéronome chapitre 18, au verset 9 à 14. Ce sont des références que je vous donne. La première chose, c'est de faire passer son fils par le feu. La deuxième chose, c'est la divination. Et je veux donner des explications maintenant. Qu'est-ce que la divination ? C'est la capacité de prévoir l'avenir par l'interprétation de certains phénomènes. C'est aussi, dans toute cette palette, il y a l'astrologie. L'astrologie, c'est l'art divinatoire fondé sur l'observation des astres. Ça coule de source. Il y a également cet aspect de l'occultisme que l'on appelle les augures. Ce sont des présages tirés d'un signe céleste. Il y a la magie, c'est le mot le plus courant, pratique visant à s'assurer la maîtrise de forces invisibles. Elle détourne de la foi, selon Actes chapitre 13, verset 8. Il y a également dans cette recommandation et cet avertissement ô combien solennel de Dieu à Moïse pour Israël, ce sont les enchantements. Qu'est-ce qu'un enchantement ? C'est agir sur quelqu'un par un procédé magique, des incantations, et l'ensorceler. Dire la bonne aventure, c'est tirer les cartes. Évoquer les esprits et interroger les morts, c'est du spiritisme. Quelques conseils supplémentaires. On va en voir d'autres. Il nous est dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Ça, c'était l'ancienne alliance. Tu ne laisseras pas vivre, selon Exode, chapitre 22. Dieu dit, vous ne vous tournerez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, de peur de vous souiller avec eux. Donc il y a une souillure, qui n'est pas une souillure physique, mais une souillure morale et spirituelle. Dixit, Lévitique, chapitre 19, verset 31. Si quelqu'un s'adresse aux morts ou aux esprits pour se prostituer après eux, je le retrancherai du milieu du peuple. Lévitique, chapitre 20. Si un homme ou une femme ont entre eux l'esprit d'un mort, l'esprit d'un mort ou l'esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera. Lévitique chapitre 20, verset 27. On sait que le roi Saül mourut parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. 1 Chronique chapitre 10. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous trouvons cette parole. Un peuple s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? Répondez, ne consultera-t-il pas son Dieu ? Ce sont deux mondes différents. Il y a un spirituel, un surnaturel et un spirituel divin et un spirituel diabolique. Il faut le savoir. Un peu plus loin, dans Lévitique, et je reviens à Lévitique chapitre 19, il est dit « N'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens. Ils vous annoncent le mensonge. Ne tirez pas des pronostics. » Je continue, parce que ça va nous informer. Je crois qu'un chrétien a besoin de savoir le contenu de ce pays des ombres, de la mort et des ténèbres. Les définitions que je vais vous donner maintenant proviennent du dictionnaire Larousse. Dans tout ce monde d'occultisme, il y a ce qu'on appelle le fakirisme. C'est l'exécution en public de tours de toutes sortes, hypnose, voyance, insensibilité. C'est l'hypnose. le chamanisme, qui est purement de la sorcellerie, qui est pratiqué par un chaman, c'est surtout dans les régions de la Mongolie, enfin tous ces pays de l'Asie, etc., ou en Amérique du Nord, dans les populations primaires, c'est-à-dire avant, finalement, que les anglo-saxons fassent, eh bien là, l'Amérique comme nous la connaissons aujourd'hui. Chaman, qui est un prêtre et guérisseur censé communiquer avec le monde des esprits par le recours de diverses techniques, les transes, l'extase, le voyage initiatique, le satanisme, qui existe dans notre pays, qui existe partout. C'est un culte qui est voué à Satan délibérément et au mal. L'hypnoptisme, ce sont des techniques permettant de provoquer un état d'hypnose au moyen de la suggestion. Méfions-nous parce que maintenant, ce genre de démarche va être reconnu dans ce qui était, disons, reconnu comme des sciences vérifiables, appliquées, etc. On parle de la médecine. La sophrologie, méthode de psychothérapie ou de relaxation proche de l'hypnose. Écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, ça passe partout, hein. Luciférisme, culte rendu dans des sectes démoniaques à Lucifer, donc à Satan. Lucifer, c'est le premier nom qui veut dire ange de lumière, mais qui est ténèbre. L'alchimie, alors ça nous ramène un petit peu au Moyen-Âge, hein. Science occulte centrée sur la recherche d'inspiration spirituelle, ésotérique, d'un remède universel à travers l'élixir, la panacée, la pierre philosophale, capable d'opérer une transmutation de l'être, de la matière, les métaux changés en or, par exemple. Je voudrais faire une petite remarque. Dans nos milieux que nous appelons évangéliques, ces enchanteurs et ces gens qui se disent prophètes, qui sont capables de changer les dents en or, de faire tomber des paillettes d'or et tout ça, ça relève de l'occultisme, et je tiens à le dire. Alors, on arrête de nous jeter de la poudre dans les yeux. Et ils se servent de l'évangile, ils se servent du nom de Jésus pour produire toutes sortes de choses, mais ce sont des occultistes. Méfiez-vous, ça court, hein. Je vous le dis. On l'a vu. La lévitation, qui est un phénomène selon lequel certains êtres sont soulevés du sol et s'y maintiennent sans aucun appui naturel. Quelquefois, moi je ne regarde pas ça, hein, mais ils montent des spectacles à la télévision, quelquefois c'est terrible. Moi quand c'est comme ça, j'éteins. L'ésotérisme, et vous avez toutes sortes de librairies dans nos villes. Partie de certaines philosophies anciennes qui devaient rester inconnues des non-initiés, ce qui est hermétique obscur, ésotérisme, la voyance, dont de ceux qui prétendent lire dans le passé et prédire l'avenir. Il y a des cas dans la Bible. Vous savez, la pythonisse, hein, on connaît, et elle a été délivrée. Et Paul nous dit qu'il y avait un démon derrière. Voilà. Des mots peut-être un petit peu plus difficiles. L'aruspice, c'est un devin qui interprétait la volonté des dieux, entre guillemets, notamment par l'examen des entrailles des victimes. Ça se faisait dans les civilisations et sociétés anciennes. D'accord ? L'envoûtement. Vous avez peut-être reçu des petites invitations à l'envoûtement, hein, dans les boîtes aux lettres. Le professeur Intel, qui se dit des envoûtements et tout ça, toutes sortes de choses. C'est un exercice sur un être animé d'une action magique, le plus souvent maléfique, par l'effet supposé de diverses pratiques, incantations, figurines de cire, photographies. On ne donne pas sa photo à tout le monde. La sorcellerie. Ensemble de rites destinés à guérir, à nuire et à faire mourir. Et il y a des courants dans notre monde d'occultisme tels que le vaudou, et puis bien d'autres choses. Leur mise en œuvre peut relever dans ses aspects maléfiques de pratiques clandestines ou de l'action supposée d'êtres invisibles que l'on appelle des forces surnaturelles. Le magnétisme, pratique du guérisseur censé agir à distance au moyen de son fluide magnétique mis en œuvre notamment par l'imposition des mains et le pendule, qui n'a aucune recommandation avec ce que Jésus nous dit dans Marc 16. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce que nous sommes en train de dire, c'est la contrefaçon de la vérité qui nous est demandée par Jésus. Voici, en mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a compris. Le spiritisme est une doctrine fondée sur l'existence et la manifestation des esprits. C'est la croyance aux communications possibles entre les vivants et les morts par le moyen de supports matériels inanimés, tables tournantes, ou de sujets en état de transe, les médiums. Ce sont des esprits mauvais qui sont appelés des démons, qui répondent afin de nous faire croire que les morts sont conscients. S'il y a une conscience, elle est de l'autre côté, mais il n'y a pas de communication entre eux. C'est ce que nous dit l'évangile de Luc en ce qui concerne Lazare et le mauvais riche. Voilà. La Bible dit tout le contraire. Il existe beaucoup de mystificateurs car les séances ont lieu dans l'obscurité, c'est-à-dire toujours en catimini, caché des regards. Quoique aujourd'hui, dans notre monde, ça devient véritablement de plus en plus connu, puisque c'est relayé par tous les médias et les grands médias mis à la disposition de tout le monde. Et ça devient grave. C'est quelque chose d'assez particulier, ce que je suis en train de vous dire. Mais je pense que les chrétiens doivent le savoir. L'astrologie, c'est une escroquerie, une supercherie, un grand bluff. Parce qu'il a été prouvé que des jumeaux ont souvent des destins complètement opposés, pourtant nés au même moment, sous le même signe. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a également des compléments à tout ce que nous venons de dire. Ce sont des mots petits, c'est un peu compliqué, mais on peut les deviner quand même. La géocie, c'est la magie faisant appel aux esprits du mal. La théurgie, la pratique occulte visant à communiquer avec les bons esprits, à utiliser leur pouvoir pour atteindre Dieu. C'est curieux, hein ? Il n'y a pas de magie blanche et de magie noire, il n'y a que la magie. Parce qu'on prétend que la magie blanche, elle fait du bien, et la magie noire, elle fait du mal. La magie, c'est la magie. On est d'accord ? La nécromancie, c'est l'évocation des morts pour connaître l'avenir ou une chose cachée. La géomancie, c'est une technique divinatoire fondée sur l'observation des figures formées par la terre ou des cailloux jetés au hasard sur une surface plane. Par déduction, on arrive à, je ne sais pas, hein, vous avez peut-être saisi. Technique divinatoire observée sur l'observation de figurines formées par la terre ou des cailloux jetés au hasard sur une surface plane. L'oniromancie, c'est la divination des rêves. Alors là aussi, hein, faisons attention, il y a rêve et rêve, pour que le rêve ne devienne pas un cauchemar. La chiromancie, c'est la divination fondée sur l'étude de la main. La bonne aventure. Voilà. La cartomancie, divination par les cartes à jouer. En général, le tarot. Féticheur, c'est un guérisseur ou un devin faisant agir des fétiches, objets ou animaux auxquels sont attribuées des propriétés magiques bénéfiques. La radomancie, c'est la radiesthésie pratiquée avec une baguette. Ça revient au même nom que radiesthésie. Le calibal, pas le cannibal. Le calibal. Interprétation juive, ésotérique et symbolique du texte de la Bible. Jusqu'où les choses peuvent aller se nicher. Ce que l'on appelle généralement la cabale. Parce que, croyez bien qu'ils ont été les premiers, les juifs, à recevoir l'interdiction formelle comme étant une abomination de se livrer à l'occultisme. Et ils ne sont pas les derniers dans la course. Hein, la cabale. Le sabbat. Alors on sait ce que c'est sur le plan religieux, mais ce mot a été dévié parce que c'est l'assemblée nocturne de sorciers ou de sorcières sous la présidence du diable. Le marabout, en Afrique, musulman réputé pour ses pouvoirs magiques, devins et guérisseurs. La télépathie, c'est la transmission de pensées d'une personne à une autre sous communication par des voies sensorielles connues. Alors que penser de la radiesthésie, parce que c'est quand même assez fréquent. C'est une méthode de détection d'objets, de maladies, par l'intermédiaire des mouvements d'une baguette ou d'un pendule, fondée sur cette sensibilité. C'est quelque chose qui relève de l'occultisme. On pourra dire c'est anodin, mais il n'y a rien d'anodin avec la magie et l'occultisme. Étiquette rouge, danger de mort, marée noire. Attention, danger de mort. Les guérisseurs, ça fait partie de notre culture, hein, tellement développée dans notre monde. Ils invoquent Dieu, ils invoquent Jésus, mais aussi Marie et les saints qui sont morts. Les saints inconscients et n'ont aucun pouvoir, naturellement. Ils sont rémunérés ou acceptent des dons. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout simplement. Souvent, par rapport à cette démarche de guérissage, il y a, et nous l'avons dit souvent, et je le répète à dessein aujourd'hui, il y a souvent transfert du mal sur une personne de la famille. C'est à vérifier. Et c'est vérifiable, et on le constate. Deux remarques supplémentaires. De nombreux praticiens, voyants, magiciens ou guérisseurs passent tôt ou tard par des difficultés d'ordre nerveux, psychique, spirituel, d'une gravité telle que l'hôpital psychiatrique reste parfois le seul refuge à leur souffrance. Quand on touche à l'occultisme, on finit fou. Il y a de la folie derrière. On ne touche pas à cette dimension de ce monde ténébreux où nous avons dit il y a un instant que c'était la confusion. La parole de Dieu nous dit c'est la confusion, le pays de la confusion. Et ces gens qui se prêtent pour avoir des pouvoirs, pour gagner de l'argent et faire soi-disant du bien ou du mal, hein, peu importe, ça finit souvent par, plus que la déraison, ça finit par la folie, la gilet psychiatrique. Si ça ne finit pas, dans le suicide. L'occultisme pratiqué ou subi fait perdre tout intérêt et toute saveur à la parole de Dieu. Ça s'est vu. Révélé dans l'Écriture sainte ou la prédication. Les gens qui ont pratiqué et qui ne se repentent pas de leur occultisme ou de leur magie, même si ça a été subi, quand ils en prennent conscience, à ce moment-là, il faut demander pardon à Dieu. Et Dieu nous pardonne. Mais si nous restons dans cet état, eh bien, nous l'avons vu combien de fois, des gens qui sont venus, mais alors chargés profondément par l'occultisme, ils entendent une prédication, ils ne la comprennent pas. Ce n'est pas possible. La foi n'arrive pas à trouver son terrain. Il faut se repentir. Il faut demander un pardon à Dieu. Et Dieu va nous pardonner, parce que c'est le but, hein, dans tout ça. Ce désintéressement peut aller jusqu'au dégoût de la parole de Dieu, voire même l'agressivité. Ces mêmes constatations pourraient être faites à propos de la vie de prière ou de la communion fraternelle. C'est-à-dire que les gens, ils sont partis dans un sens, une direction, qui les empêche finalement d'apprécier, de goûter. Hein. Ils vont prier, mais ils vont prier des démons. Mais ils ne pourront pas prier Dieu, ils ne pourront pas prier Jésus. Il y a des conséquences à tout cela. De ceux qui se livrent à ce genre de choses, souvent ce sont des idées de grandeur, l'orgueil. On le voit chez Simon, le magicien. Des idées de persécution. Ces gens sont en miettes à l'intérieur quelque part, sont divisés. Et quelquefois, ils sont dans un état de... Ils se disent, voilà, ils ont des craintes et toutes sortes de choses. Ce sont des idées mélancoliques, l'angoisse, l'anxiété, la dépression, l'état de dépression. Ça, c'est quelque chose aussi à constater. Je ne vais pas vous parler des Rose-Croix, je ne vais pas vous parler de la franc-maçonnerie, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'en arrive simplement à la conclusion. La conclusion, elle est simple, et vous la connaissez, parce que vous connaissez la parole de Dieu. Jésus est la lumière. Jean, chapitre 8, verset 12. Il fait tout la lumière... Et il a tout fait en plein jour. Dans l'évangile, sur la vie de Jésus, rien n'est caché ni secret. Tout est dévoilé et tout est clair. Il suffit de sonder la parole pour le comprendre. Jésus fait les choses dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, en toute chose. Tout ce qui est fait en cachette ne peut venir de lui. Et quand les hommes sont entraînés dans des cabinets obscurs, quand ils sont entraînés dans toutes sortes de choses où on dira « faut pas le dire, ceci, attention », alors à ce moment-là, ça ne peut pas venir de Jésus. Et c'est condamnable par la parole de Dieu. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'un jour, tout sera dévoilé, le bien comme le mal. Et il y aura des hommes et des femmes qui, malheureusement trop tard, ouvriront les yeux en pensant que ce qu'ils ont fait, ce à quoi ils se sont voués, là où ils ont pratiqué, peut-être même, peut-être certainement, parfois des victimes, eh bien, ils s'apercevront qu'ils ont été trompés. Le vieux mensonge du serpent qui était le plus rusé des animaux de la terre, eh bien, se continue à travers, finalement, ce pays de l'obscurité, ces ombres de la mort et de la confusion. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Dieu ne peut être l'instigateur de ce qui est mystérieux, de ce qui est occulte. Et nous avons besoin d'être sur nos gardes, car le malin, le diable, agit de multiples façons afin de nous séduire et de nous éloigner, finalement, de notre Père céleste. Et un jour, Jésus va être pris de front. Il va avoir maille à partir avec les pharisiens, des religieux, les grands religieux d'Israël qui se réclamaient de la loi de Moïse et tout le reste, qui connaissaient tout ça. Il va leur dire, ben moi je vous dis, que n'allez pas dire que vous êtes des fils d'Abraham et que vous avez Dieu pour père, parce que moi je vous dis que votre père, c'est le diable et vous voulez faire sa volonté. Il dira, mais comment ? Comment tu peux nous dire des choses comme ça ? Et Jésus va leur dire, mais vous voulez me faire mourir ? Alors, vous avez donné la preuve que l'inspiration qui est la vôtre, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Ils n'ont pas été contents, hein ? Et on comprend que Jésus a été crucifié quelque temps après. Nous avons besoin de croire fermement en Jésus afin de ne pas demeurer dans les ténèbres et ne prenons pas, comme Paul le dira dans Éphésiens, une part infructueuse avec ses œuvres ténébreuses. Pour nous, nous connaissons ces choses et il y a longtemps que nous avons rompu. Mais il y a tant de gens qui font les choses avec beaucoup de candeur, beaucoup d'ignorance, beaucoup de... Ils se disent, eh bien... Comme c'est inscrit dans le contexte de notre religion, puisque l'on parle de Dieu, puisque l'on parle de ceci et cela, ben ça ne peut venir que de Dieu, c'est tout. Il faut être un petit peu plus perspicace et avoir davantage de discernement parce que c'est comme ça qu'Adam et Ève se sont fait avoir. Dieu aurait-il réellement dit ? Et c'est extrêmement dangereux. Maintenant, il y a un conseil qui peut être donné à tous ceux qui, de près ou de loin, ont touché à ce monde-là. C'est que Jésus possède la puissance de la libération. Eh oui, Jésus possède la capacité de nous délier, de nous délivrer de ces chaînes et de faire de nous des nouvelles créatures, en passant pour chacun d'entre nous, lorsque nous avons après appris la connaissance, que nous avons la connaissance des choses, de cette réalité, eh bien, de demander pardon, ce que l'on appelle la repentance. Oui, il a la puissance. Et pour tous ceux qui ont pratiqué la magie, nous le voyons dans le livre des Actes, au chapitre 19, dans l'histoire qui nous est rapportée des fils de Séva, qui pratiquaient l'occultisme au nom de Paul. Eh bien, tous ceux qui possèdent des livres de magie, des grimoires, des annulettes, des talismans, des fétiches, des pentacles, des gris-gris et tout ce qui s'y rapporte, eh bien, in the poubelle. Voilà, ça va à la poubelle. Ça soit détruit. Alors attention dans la pratique, et je voudrais donner un petit conseil, quand nous, les chrétiens, nous voyons quelqu'un qui... Faites attention de la manière dont vous allez présenter les choses. Parce que votre intention, c'est de les amener au Seigneur, à la délivrance. Mais si vous leur dites immédiatement, vous devez jeter tout ça... Vous allez voir que vous n'allez jamais les revoir. Il faut attendre d'abord qu'ils prennent racine dans la parole. Il faut attendre qu'ils puissent grandir. Parce que si vous leur dites la première fois, « Oh, ça me fait horreur ce que vous avez. Vous avez cette médaille, elle a été bénie par ceci et cela. » Alors là, vous allez les toucher dans leur, au plus profond d'eux-mêmes et ils ne reviendront jamais. Ça, je peux vous le dire. Hein. Parce qu'il faut qu'il y ait un temps pour qu'ils arrivent à comprendre, qu'ils arrivent à acquérir cette connaissance, qu'ils arrivent à se libérer. Et à un moment donné, eh bien... Ils le feront tout seul. Mais attention de ne pas les bousculer. Ça va venir. Laissez-les venir aux réunions. Laissez-les se faire enseigner par la parole de Dieu. Et un jour, c'est eux qui le feront de même. Nous avons connu une personne qui, 71 ans d'occultisme, et pas n'importe lequel, l'occultisme religieux, avec des voyages, enfin dans tout, partout où on peut aller. Hein. Et à chaque fois, elle revenait avec des statuettes, avec des chapelets, avec ceci et cela. Quand on est arrivé dans la maison, c'était, mais alors, peut-être à peine à y mettre les pieds. Hein. Et puis on a laissé, elle est venue, quand on est rentré dans cette maison, avec mon épouse, on a ressenti vraiment un esprit de mort. Un esprit de mort, c'était terrible. Avec des manifestations. Des manifestations dans les armoires. Toutes sortes de... Je ne vous fais pas peur, hein, j'espère. Parce qu'on en est sorti, on est encore vivant. Hein. Mais on a prié pour cette femme. Et on y a été peut-être 2 heures à discuter avec elle, à lui poser des questions. Mais c'était une femme qui avait vraiment faim et soif de vérité et de délivrance. Elle nous a raconté des choses épouvantables. Et tout tournait autour de la mort. Alors, on ne lui a pas dit de jeter tout ça. On ne lui a pas dit, bien lundi, on va venir et puis on va déménager votre maison. Hein. Pas du tout. On l'a laissée comme ça. On a prié pour elle. On a dit, Seigneur, tu l'enseignes. Seigneur, tu parles à son cœur. Et puis, le temps a passé, elle est venue dans les réunions. Elle a fait des expériences extraordinaires de délivrance pour elle-même d'abord, dans son cœur, avant les choses, avant les objets. Mais elle avait toujours toute cette quincaillerie. Hein. Elle l'avait toujours. Puis un beau jour, oh, peut-être 4-5 mois après, elle est venue me voir et elle me dit, Alain, j'ai fait 2 à 3 sacs. Comme ça, hein? Et je les ai balancés sur le pont de la Loire. Enfin, c'est pas le pont de Saint-Nazaire. Hein. Et vraiment, cette femme, bah, vous la connaissez, hein, elle vient de temps en temps, et elle a été véritablement libérée, libérée de tout ça. Le lien a été coupé. Et aujourd'hui, elle voit les choses. Elle dit, mais comment j'ai pu vivre pendant 70 ans dans l'aveuglement, dans les craintes, dans les peurs, dans des choses infernales. Parce que le Seigneur avait fait son œuvre. Alors c'est pour ça, hein, soyez prudents. Faites attention quand vous dites aux gens, parce qu'ils vont vous montrer des crucifix, ils vont vous montrer des choses bénies, etc., et puis toutes sortes de choses. Faites attention de la manière dont vous allez présenter les choses. Ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est lui qui va faire les choses. Et ça va se faire. Mais... Encouragez ces gens à venir écouter l'Évangile, à lire la Bible, à prier peut-être même avec eux, hein, pourquoi pas. Mais ça va se faire. Je terminerai pour vous dire que nous vivons dans une période d'obscurantisme qui n'a rien changé avec les temps de la Bible, du temps de Moïse, du temps de Jésus, et ceci et cela. Parce que notre grand ennemi, l'ennemi de l'homme, même ceux et celles qui prétendent le servir, le diable n'a pas le qualificatif d'ami. Hein, faut pas se faire d'illusions. Ça, c'est quelque chose d'inconnu chez le diable. C'est l'ennemi. Et même ceux qui le servent, même auxquels le diable leur donne du succès, du talent, des toutes sortes de choses, la gloire d'être quelquefois devenus des idoles avec des talents politiques ou en chant ou en musique ou un truc comme ça. Enfin, excusez-moi l'expression, mais d'une manière ou d'une autre... C'est toujours l'ennemi des hommes. Et pourquoi il est ennemi des hommes? Parce qu'il est ennemi de Dieu. Et nous sommes des créatures de Dieu. Alors notre grand ennemi, le Dieu de ce siècle, lui veut nous voiler la vérité. C'est ce qui nous est dit. Que finalement, eh bien, il nous voile pour que nous ne comprenions pas. Parce que cette vérité, elle se trouve tout simplement dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est la seule qui puisse nous affranchir. Et Jésus a cette belle réplique, ben c'est le même jour où il a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, il dira, mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. De quelle libération il s'agit? Si c'est une libération des forces mauvaises, des puissances mauvaises, de toutes ces choses qu'elles véhiculent, et qui sont vraiment... nocive, toxique, comment dire, vénéneuse, c'est du poison, tout simplement. Alors, pour terminer par où on a commencé, le maître de la maison, le maître du champ avait semé du bon grain. Il avait envoyé ses serviteurs. Ses serviteurs sont allés. Il avait bien vu que c'était de la bonne graine. Et pas de problème. Alors il l'a semé. Ils ont semé tout cela. Et puis après, ils sont repartis, parce que le cultivateur, il ne reste pas dans son champ. Non, ils sont partis. Puis quelque temps après, quand la semence a levé, ils sont retournés, les serviteurs. Et ils ont constaté une chose. Eh bien, c'est que finalement, c'était le mélange. Et la grande force de l'ennemi, c'est de mélanger les choses. Ah oui, c'est de mélanger le vrai avec le faux, la lumière avec les ténèbres, et puis toutes sortes de choses semblables. Et ils se sont précipités, les serviteurs, en disant « Mais tu nous as donné de la bonne graine, comment ça se fait qu'il y a de la mauvaise? Il y a de l'ivraie dedans. Comment ça se fait ?» Et le maître a dit « Mais c'est un ennemi qui est passé de nuit. Il n'est pas venu en jour, il n'est pas venu de jour, il est venu la nuit. » On l'a dit tout à l'heure, l'occultisme se fait dans l'obscurité et les ténèbres. Et les serviteurs ont dit « Mais on va l'arracher. » Il aura dit non laissé, parce que c'est un ennemi qui a fait cela. Un ennemi qui a fait cela. Alors, quand dans le livre de Job, nous avons commencé tout à l'heure, il était question du pays, d'une obscurité profonde. Il était question de, dans ce pays-là, où règne l'ombre de la mort, ce n'est pas la vie. Jésus est la vie, il est la lumière, il est la libération, il est la délivrance, il est le pardon, il est le salut. Mais il est question aussi de l'ombre de la mort dans notre texte. Et la confusion, les gens savent plus où ils en sont rendus, vous rendez compte? C'est bien, c'est mal, on ne sait plus. On est partagé. Où la lumière est semblable aux ténèbres. C'est bien le grand subterfuge de l'ennemi de faire prendre les ténèbres pour la lumière. Vous avez remarqué? Où la lumière est semblable aux ténèbres. Alors ce n'est plus la lumière à ce moment-là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous donne sa grâce. Je voulais partager... C'est beaucoup plus une petite étude que de l'évangélisation, mais je voudrais vous dire que c'est quand même de l'évangélisation. C'est de l'évangélisation, croyez-le bien, parce que ça ne s'adresse pas à nous cet après-midi, ça s'adresse à tous ceux qui sont dehors, à tous ces malheureux, ces gens qui sont là, déchirés dans des foyers, qui sont en train de se quereller, qui sont en train de se faire la guerre, qui sont en train de se piétiner, ceux qui ont déjà peut-être, vous comprenez ? Les suicidants, parce que l'esprit qui préside à ce geste, eh bien ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut la vie des hommes, il ne veut pas la mort. Et toutes sortes de choses, l'ivresse, la drogue, les dépravations d'une manière ou d'une autre, tout cela, ça fait partie de ce monde-là, où les ténèbres, finalement, eh bien sont dévoilées par la lumière, parce que Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants et je vais demander à notre frère M. Balza, s'il vous plaît, de bien vouloir courtement prier pour chacun d'entre nous.